Avec les consoles.
Qui-Gon, Obi-Wan, Darth Maul.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial en partenariat avec le podcast Le Son du Ciné, car nous parlons d'un livre qui s'intitule « Composé pour l'image à l'ère du numérique, Star Wars d'une trilogie à l'autre ». Comme des lecteurs pour son numéro de l'été, reçoit exceptionnellement l'autrice du livre, Chloé Huvé. Bonjour Chloé.
Bonjour Jérémy.
Avec moi et avec Chloé, Jason.
Bonjour.
On parle de Star Wars, de la musique et des sons de Star Wars comme des lecteurs. On a une tradition dans Comme des lecteurs, c'est de résumer les livres qu'on vient de lire pour ensuite en discuter ensemble. Sauf que ici, ton livre, c'est déjà une analyse de Star Wars, donc je ne vais pas me lancer dans un résumé de Star Wars, mais je peux dire quand même quelque chose sur ton livre, livre qui sera très important en France, car c'est le premier livre qui est entièrement consacré à l'analyse de la musique et des sons dans Star Wars. Première question, Chloé, pour toi, est-ce que tu conseilles de lire ce livre précisément pour ceux qui ne sont pas musiciens ?
Chacun va réussir à piocher un petit peu au fil des analyses. Il y a des éléments qui peuvent tout à fait s'adresser à des non-spécialistes parce que je ne fais pas forcément d'analyse extrêmement poussée de tous les paramètres techniques à chaque fois. Mais j'étudie vraiment la musique dans son contexte, la manière dont elle interagit avec l'image, avec les sons. Et donc je pense qu'il y a certaines analyses qui sont tout à fait compréhensibles, même si on n'a pas de bagage technique musicale.
De plus, on n'est pas obligé de le lire de A à Z comme on ferait avec un roman.
Tout à fait, on peut vraiment piocher dans les différentes parties. Les trois parties qui organisent le livre sont très complémentaires. Il y a une première partie qui est centrée sur l'écriture du compositeur, de John Williams, donc d'un point de vue de l'orchestration, du point de vue du traitement des thèmes. Mais il y a aussi une partie qui est dédiée au montage. Et il y a une dernière partie qui s'intéresse à la relation entre la musique et les bruits, les effets sonores.
Je voudrais commencer peut-être par ton processus d'écriture à toi, en tant qu'autrice, en tant qu'analyste, parce que tu n'as pas pu rencontrer John Williams en écrivant ce livre, mais tu as fait d'autres rencontres qui attestent en quelque sorte de l'importance d'autres métiers de la musique et du son dans la musique de film. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces rencontres ?
Oui, tout à fait. Alors cet ouvrage est issu de ma thèse de doctorat que j'ai menée entre 2013 et 2017. Et en fait, l'une des visées de ma thèse, c'était de m'intéresser au processus de création collective dans la musique de film, c'est-à-dire de ne pas seulement s'intéresser aux compositeurs, mais aussi de voir toute l'équipe qui l'entoure. Donc bien sûr, du côté du son, les sound designers et l'équipe de techniciens son, mais pour ce qui concerne la musique, les orchestrateurs et le monteur musique. Donc j'ai pu rencontrer plusieurs orchestrateurs de John Williams avec qui je me suis entretenue, qui ont pu me montrer certains manuscrits aussi de la plume de Williams, ce qui m'a aussi dévoilé certains processus d'écriture, certaines manières dont Williams abordait la musique que je n'aurais pas pu du tout, percevoir sans avoir accès à ces manuscrits. Et puis, j'ai également rencontré donc son monteur musique, Kenneth Wanberg, qui m'a éclairé sur le métier de music editor, donc de monteur musique.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce fameux métier de music editor et de son importance aujourd'hui dans l'industrie du cinéma ?
Alors ce métier de monteur musique est extrêmement important et il a pris une importance accrue avec le numérique, on y reviendra tout à l'heure. Le cas de Kenneth Wanberg est assez particulier puisque c'est vraiment le monteur attitré de John Williams depuis La Vallée des Poupées jusqu'à Munich en 2005, moment où il a pris sa retraite. Et donc ils ont vraiment une confiance très très forte et ils ont mis en place un processus créateur qui leur permet d'avoir confiance l'un dans l'autre et ça permet à Williams aussi de déléguer certaines tâches à Kenneth Wanberg, j'y reviendrai. Mais en gros, qu'est-ce que c'est un monteur musique ? Quel est son rôle ? Son rôle va d'abord être en lien avec le monteur image, bien souvent, donc Paul Hirsch pour Star Wars, de sélectionner ce qu'on appelle les pistes temporaires, donc les theme tracks en anglais. Ce sont des musiques qui vont accompagner une première version du montage. Et pourquoi est-ce que les réalisateurs ont besoin de ces pistes musicales temporaires ? Eh bien, c'est pour imprimer un certain rythme, pour donner une certaine atmosphère déjà à leur séquence, et puis peut-être aussi pour avoir une base de dialogue après avec le compositeur pour leur faire entendre ce qu'ils souhaiteraient comme type de musique dans la séquence. Le monteur musique va avoir également un rôle très important dans ce qu'on appelle les spotting sessions, qui réunissent habituellement le réalisateur, le producteur, le sound designer et puis le compositeur et son monteur. Qu'est-ce que sont les spotting sessions ? Eh bien, ce sont des visionnages du film, donc où le film est montré sur grand écran et toute l'équipe regarde donc le film de la première à la dernière minute et ils décident ensemble avec donc le réalisateur, quand est-ce que la musique doit intervenir, avec un minutage très très précis, donc quand la musique intervient, quand est-ce qu'elle s'arrête, quels sont les moments sans musique aussi, puisque le silence au cinéma est extrêmement important, et puis quelle doit être la teneur de la musique pour accompagner ces scènes. Donc ensuite, une fois que ces spotting sessions sont terminées, le compositeur va commencer à écrire sa partition en fonction donc, de la liste très très précise qu'a établie son monteur.
C'est intéressant parce que ça permet de déconstruire finalement cette idée qu'il n'y aurait qu'un seul homme derrière la musique de Star Wars, John Williams. On adore John Williams, je ne suis pas en train de dire du mal de lui. Mais
tout à fait, le compositeur de musique de film ne compose pas seul dans sa tour d'ivoire. Il est vraiment épaulé par une équipe, alors qu'ils sont un peu des hommes de l'ombre. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément bien tous les tenants et aboutissants de leur métier. Et donc, c'était important pour moi de mettre en valeur leur rôle de façon très précise pour qu'on comprenne bien que oui, John Williams, c'est lui qui écrit les notes, c'est lui qui est le responsable du matériau musical, mais après c'est quelque chose qui va prendre place dans un ensemble plus large qui est le film et où la musique va cohabiter aussi avec les images et les sons, et donc que finalement on ne vient pas au cinéma pour écouter seulement de la musique.
Alors là, tu nous as parlé d'un processus de création extrêmement abouti et qui fonctionne très très bien entre les différents acteurs. Est-ce qu'on peut remonter au début de l'histoire ? Est-ce que tu peux nous parler de ce que George Lucas avait en tête lorsqu'il est allé trouver John Williams ? Est-ce qu'il avait des theme tracks ? Parce que tu nous en as dit quelques mots il y a un instant. Comment ça s'est passé dans les premiers temps entre les deux ?
Le modèle de George Lucas, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Qui avait marqué un jalon très fort dans l'histoire du film de science-fiction avec beaucoup de reprises de musique préexistantes. Et donc, Lucas souhaitait vraiment s'inscrire dans ce sillon-là avec des musiques du répertoire classique savant, du Liszt, du Dvorak, du Holst, du Ravel, du Stravinsky. Finalement, en fait, il a changé d'avis en discutant avec Steven Spielberg, son ami de longue date. Et Steven Spielberg lui a dit « Non, il ne faut pas que tu sélectionnes des musiques préexistantes, il te faut une musique originale, donc composée spécifiquement pour ton film, parce qu'elle va pouvoir apporter quelque chose de plus, elle va pouvoir s'adapter aux images, elle va pouvoir jouer un rôle narratif, dramatique, que ne pourront pas endosser de la même façon des musiques préexistantes qui viennent avec leur propre connotation, avec leur propre signification. » Et donc, Spielberg a recommandé John Williams parce qu'il avait commencé à travailler avec lui sur Sugarland Express, puis sur Les Dents de la Mer, et donc c'est comme ça que a commencé la grande collaboration entre Lucas et Williams.
Tu nous parles d'un compositeur au rayonnement relativement modeste par rapport à celui qu'il connaît aujourd'hui. La première bande originale de Star Wars a été enregistrée avec des moyens également relativement modeste, et ça peut paraître surprenant quand on entend ces immenses fanfares, notamment à la fin du premier film. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Alors tout à fait, le processus est d'autant plus étonnant que George Lucas a tourné le premier épisode de Star Wars avec un budget assez dérisoire de 3 millions de dollars à l'époque. Il avait eu énormément de mal à se faire financer son film, la plupart des grands studios lui avaient un petit peu claqué la porte au nez parce que la science-fiction n'était plus vraiment en vogue à ce moment-là. Et donc, le problème de Lucas, c'est qu'il s'est retrouvé avec un projet qui était très coûteux en termes d'effets visuels. Les effets spéciaux lui ont vraiment pris tout son budget. Il a dépassé allègrement jusqu'à atteindre 11 millions de dollars au lieu des 3 dont il disposait à l'origine. Et bah, au moment d'enregistrer la musique, il a été bien embêté parce qu'il avait sélectionné un compositeur donc, symphonique qui nécessitait donc, d'enregistrer avec un grand orchestre. Et la question, c'était comment trouver les fonds, avec quel orchestre enregistrer. Et il n'avait plus rien du tout. Et donc, en quelques coups de fil, avec ses contacts, notamment à la Fox, et puis André Prévin, Steven Spielberg aussi, eh bien, l'affaire a été conclue. Et le London Symphony Orchestra a enregistré toutes les musiques de Star Wars jusqu'à La Revanche des Sith. Et ensuite, pour la trilogie la plus récente qu'on connaît, pour des raisons de santé, Williams ne pouvait plus se déplacer jusqu'à Londres. Donc, c'est un orchestre hollywoodien qui était mobilisé sur les épisodes récents.
Alors, dans ton ouvrage, tu t'intéresses longuement à la question des timbres, à la question de l'orchestre utilisé par John Williams. Est-ce que tu peux nous en parler et notamment décrire les évolutions éventuelles qu'a connues cet orchestre qu'on connaît pour ses grandes fanfares, mais qui finalement est assez varié dans l'œuvre de Williams?
Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un son Star Wars qui est assez reconnaissable, mais ce son Star Wars, finalement, est quelque chose d'assez protéiforme qui va évoluer d'épisode en épisode et surtout entre les deux trilogies. Alors, cette l'évolution globale de l'orchestration entre les deux trilogies est vraiment en fait intégrée à la transformation de l'écriture globale du compositeur. À partir des années 90, il y a eu un tournant qui s'explique par deux choses. La première chose, c'est que Williams avait un désir de renouvellement de son écriture. Ça, c'est Conrad Pope qui m'a expliqué qu'à partir de Jurassic Park et de Hook en particulier, John Williams a voulu mettre en place d'autres types de couleurs pour se dégager un petit peu des couleurs très cuivrées, peut-être qu'il avait l'habitude de mobiliser des cordes, etc. L'autre aspect qui explique cette transformation de son style, c'est l'adoption des technologies numériques. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la transformation de l'orchestre. Peut-être les deux éléments les plus saillants, c'est l'évolution du traitement des percussions et des voix. Le pupitre des percussions va énormément s'élargir, se diversifier sur les trois épisodes républicains qui sont en fait les épisodes réalisés à l'ère numérique, La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones, La Revanche des Sith. Williams va mobiliser à la fois des percussions occidentales, avec un pupitre assez énorme, et aussi des percussions extra-européennes. On note par exemple la présence de tambours japonais, de tabla, de steel drum, de marimba, de bongo. Ces percussions sont mobilisées à la fois dans des scènes d'action à la texture sonore très dense, avec le xylophone qui ressort particulièrement. Mais également, le pupitre des percussions va acquérir une présence nouvelle dans certains énoncés thématiques. Je pense par exemple au thème de Dark Maul de La Menace Fantôme et au thème de la Fédération du Commerce, le thème des droïdes de la Fédération du Commerce. Et par ailleurs, l'autre très très frappant, c'est que ces percussions vont parfois avoir des passages solistes où elles vont jouer seules, ce qui est très nouveau dans l'univers Star Wars, mais qui est lié vraiment à d'autres partitions contemporaines en fait des épisodes républicains. Donc on l'entend par exemple ces percussions seules lors de la poursuite de l'attaque des clones avec la chasseuse de primes Zam Vessel qui tente d'abattre Obi-Wan et Anakin. C'est aussi une mise en avant de percussions solistes. On le trouve aussi dans la scène d'Harry Potter à l'école des sorciers, dans la partie d'échecs version sorcier. On l'entend aussi dans Minority Report lorsque les petites araignées électroniques traquent John Anderton, interprété par Tom Cruise. Et Et puis, c'est quelque chose qu'on va énormément trouver dans Le Monde Perdu, le deuxième volet de Jurassic Park.
Que Jason n'a pas vu.
Mais que je ne manquerai pas de regarder bientôt.
Et les voix dans tout ça, parce que quand on parle de Star Wars, moi, il y a deux scènes qui me reviennent en tête. C'est la scène où Obi-Wan, Qui-Gon combattent Dark Maul dans Star Wars épisode 1. Et c'est la fameuse scène, bien sûr, du combat dantesque entre Obi-Wan et Anakin. Et dans ces deux scènes, il y a des voix.
Les voix sont assez restreintes, en fait, dans la première trilogie, dans la trilogie impériale, donc les épisodes 4, 5, 6. Williams va utiliser, par exemple, un chœur féminin, un petit peu comme une touche de couleur, à la manière des sirènes de Debussy. Lorsque le Faucon Millenium arrive à Bespin, cette fameuse cité dans les nuages, donc avec toutes les connotations assez féeriques qui sont liées à ce chœur féminin. Et surtout, dans le retour du Jedi, il va introduire un cœur d'homme pour le thème de l'empereur, hein, ce personnage maléfique. Donc ce cœur dans le grave va donner un côté très menaçant au thème de l'empereur. Mais c'est un peu limité, en fait. C'est vraiment limité à ces deux grands thèmes que je viens d'évoquer. En revanche, dans la trilogie républicaine, donc il y a vraiment un enrichissement et une expansion du pupitre vocal, avec justement dans la scène de combat que tu mentionnais entre Qui-Gon, Obi-Wan et Dark Maul à la fin de la Menace Fantôme, l'utilisation d'un chœur mixte en sanskrit. Donc qui donne une puissance sonore tout à fait dramatique et épique. L'utilisation de chœurs masculins, de chœurs de voix de femmes, de voix d'enfants aussi, qu'on trouve dans la scène de célébration à la fin de la Menace Fantôme aussi. Il utilise pour la première fois des voix solistes également dans Star Wars, avec à la fin de l'attaque des clones, au moment où le comte Dooku rejoint son maître, donc Lord Sidious, donc qui est en fait le chancelier Palpatine. Donc il le rejoint et à ce moment-là, on entend une sorte de voix des limbes. En fait, c'est une voix de soprano avec beaucoup d'écho, de réverbération, donc très travaillée en post-production, mais qui est quasiment fantomatique, en fait, sans vibrato, quasiment détimbré, et qui donne voilà, ce côté un peu voix d'outre-tombe. Et puis, une des grandes innovations dans l'épisode 3, c'est l'introduction des voix tibétaines pour la scène de l'opéra où donc Palpatine va tenter vraiment de féconder Anakin, de l'entraîner un peu plus vers le côté obscur.
Alors tu viens de nous parler de ces fameuses basses tibétaines qui ont fortement marqué les spectateurs de Star Wars, et puis un peu avant tu as parlé de la voix éthérée à la fin de l'épisode 2, des voix que tu décris comme transformées en post-production, ce qui peut paraître surprenant parce qu'on imagine que Williams c'est de la musique très symphonique de tradition... tradition savante, enfin quasiment de l'orchestre directement mis sur un film. Est-ce que tu peux nous parler de ces technologies et du rôle de la post-production dans la musique de Star Wars ?
Williams va vraiment tirer parti des nouvelles possibilités offertes par le mixage numérique, notamment dans la possibilité d'avoir des plans sonores qui restent très distincts et la possibilité de mettre en relief certains timbres très légers, très lumineux, ce qu'on appelle les timbres transparents, donc le Celesta, la harpe, qui sont pas forcément des timbres très très audible, mais justement en rééquilibrant les choses en post-production, on va pouvoir permettre de les entendre très très distinctement. Et donc Williams, à partir des années 90, va avoir tendance à beaucoup mettre en avant ces alliages de timbres transparents, notamment donc dans Hook, voilà, on entend beaucoup ces associations, dans Arrête-moi si tu peux aussi, et puis bien sûr dans Star Wars. Et également une chose qui est très 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 notable, c'est que Williams va cultiver donc à partir des années 90 des couleurs très contrastées au niveau de son orchestre, c'est-à-dire qu'il va pas hésiter à confier un même motif à différents groupes instrumentaux et à le faire circuler. Il va même parfois scinder un même thème en plusieurs petites phrases et voilà, on va l'entendre tantôt à la flûte, tantôt au violon, tantôt au cor. Et donc cette spatialisation des timbres va permettre aussi un élargissement de l'espace sonore qui est lié évidemment à la prise en compte par le compositeur des technologies. On peut trouver un exemple de ces couleurs contrastées au moment de l'invasion de l'armée droïde au début de la menace fantôme, puisque on entend d'abord une marche militaire cuivrée, donc le fameux thème des droïdes de la Fédération du Commerce. Donc cette marche militaire cuivrée est suivie du thème de Jar Jar, qui est plutôt donc confié au pupitre de bois, notamment à la clarinette soliste. Et juste après, Williams nous emmène dans le monde sous-marin donc des Gungans, avec un chœur de femmes, là encore dans la lignée de Debussy. Et en fait, John Williams, dans un entretien, cite lui-même cette séquence en disant qu'il avait beaucoup aimé l'opportunité que lui avait offert cette succession de scènes d'exploiter une palette sonore très variée et très changeante.
Quand on parle de musique de film, il y a une tarte à la crème, un mot qui revient très souvent, c'est leitmotiv. La musique de film, c'est le leitmotiv. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le leitmotiv, Chloé ?
Alors c'est vrai que c'est une idée très tenace hein, dans la bibliographie existante sur la musique de film.
Même dans les discours passionnés, amateurs, les gens parlent de leitmotiv tout le temps. Les étudiants parlent de leitmotiv partout. Comme si leitmotiv en fait était la formule magique pour comprendre la musique de film.
Parce que le leitmotiv est auréolé d'une certaine aura prestigieuse qui est liée au compositeur Richard Wagner, qui a non pas inventé le procédé comme on le lit trop souvent, mais qui l'a popularisé et qui a considérablement systématisé son emploi dans ses propres opéras. En revanche, s'il est vrai effectivement qu'on trouve des leitmotifs dans Star Wars, il faut juste bien s'entendre sur la définition de ce qu'est un leitmotif. Trop souvent, dès qu'un thème revient, on dit « c'est un leitmotif ». Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Un leitmotiv, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une idée musicale brève qui va être associée à un référent extra-musical. Ça peut être un personnage, un lieu, une idée plus abstraite, un objet. Et ce motif va revenir transformé au fur et à mesure donc du film, hein, puisqu'on parle du film ici, il va revenir au fur et à mesure transformé. Et il y a une double nature en fait musicale et symbolique du leitmotiv qui est très importante. Et le leitmotiv va être caractérisé par sa nature évolutive, c'est-à-dire que non seulement il va revenir sans cesse transformé, donc musicalement, c'est-à-dire confié à différents instruments, on l'entend à différents registres, etc., sous différentes variations rythmiques, mais c'est également un type de motif qui va être très mobile quant à ses références, c'est-à-dire que ça va pas être forcément le thème de tel personnage, en fait, ça va être bien plus ouvert que ça, il va pouvoir symboliser de nombreux aspects complexes justement de son référent et parfois se détacher d'un référent pour s'allier à un nouveau référent au cours du film. Voilà, et donc le leitmotiv, sa particularité c'est qu'il est récurrent, donc il a besoin de se déployer dans une vaste structure, et donc les grandes sagas comme Star Wars mais aussi Le Seigneur des Anneaux sont des lieux propices à l'utilisation du leitmotiv. Et donc le leitmotiv repose vraiment sur un processus de mémoire, c'est-à-dire voilà, à chaque fois qu'on entend le leitmotiv qui revient, on a en tête ses précédentes apparitions, et donc dès qu'il va être présenté différemment, bah, il va pouvoir éclairer son référent sous un nouveau jour.
Et est-ce que cette association est si linéaire que ça ? C'est-à-dire, est-ce que l'ensemble des spectateurs identifie l'ensemble des motifs et des thèmes de manière extrêmement claire ? Je pense par exemple au thème que tu décris comme le thème de la force, qui est associé à une vaste diversité d'éléments dans l'univers de Star Wars.
Tout à fait. En fait, l'ancrage n'est jamais fixe, n'est jamais stable ni définitif. Il y a vraiment une circulation d'un référent à l'autre. Alors évidemment, moi, les significations que j'ai pu dégager sont liées à des visionnages répétés aussi des films. Et il y a certains motifs pour lesquels j'explique dans le livre que j'ai eu aussi de la difficulté à déterminer précisément à quoi il renvoyait. Justement parce que c'est quelque chose d'extrêmement souple, de très malléable. D'autant que voilà, la question de la signification en musique est une question assez complexe et épineuse aussi, voilà, où il y a eu un certain nombre de débats au cours de l'histoire de la musique à ce sujet. En tout cas, le thème de la force est très intéressant parce que il va vraiment emblématiser cette nature très souple du leitmotiv. Il va être associé à la fois lorsqu'on l'entend quand Luke est devant les deux soleils, il va être associé à une sorte d'appel du lointain, l'appel de l'aventure, avec une dimension assez mélancolique, assez triste aussi. Et petit à petit, donc tout cela va bouger. Le thème va pouvoir être associé aux Jedi, il va renvoyer plus spécifiquement à l'ensemble donc des Jedi, à leurs enseignements sur la force. Il va pouvoir aussi jouer le rôle de motif associé à Obi-Wan Kenobi, donc jusqu'à la série qui vient de sortir, n'avait pas de thème propre. Et donc, parfois, ce thème se substitue en quelque sorte à un thème de personnage, et donc il n'est plus le thème de la force, mais il est le thème d'Obi-Wan. Par ailleurs, on l'entend très souvent lorsque les Jedi vont manifester leur pouvoir télékinésique ou lorsque le champ d'énergie qu'est la Force va se manifester auditivement. Souvent, il y a un souffle qui est associé à l'action de la Force. Ce qui est assez intéressant, c'est que le thème de la Force va pouvoir aussi bien être employé par Williams pour accompagner les moments un peu victorieux des héros, mais aussi les moments de défaite des protagonistes, et où il va devenir du coup un peu plus élégiaque. Et en particulier dans le Retour de Jedi, le thème de la Force va être énormément associé à la tragédie des Skywalker, donc Leia, Luke et Anakin, et au vacillement très souvent entre le côté obscur et le côté lumineux de la Force.
Entre les deux trilogies, entre la trilogie et la prélogie, entre la trilogie républicaine et la trilogie impériale, il s'est passé quelque chose de très important dans le monde du cinéma. On appelle ça la révolution numérique. Tu consacres d'ailleurs un chapitre de ton livre à cette révolution numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour commencer ?
Alors effectivement, la particularité de la prélogie est d'être une trilogie réalisée à l'ère numérique. Donc la prélogie emploie le son Dolby Digital, qui implique en fait une conversion du signal sonore en une série, donc le signal sonore analogique en signal sonore numérique, c'est-à-dire ça va impliquer que le son se présente sous la forme d'une série de chiffres, de 0 et de 1, très concrètement. Alors, pour être un peu plus précise, en quoi consiste ce son Dolby Digital ? En fait, c'est un son multicanal, ce qu'on appelle le son 5.1, qui implique une séparation de 6 pistes, donc au moment où ça va être diffusé dans les salles de cinéma. Il y aura 3 pistes à gauche, au centre et à droite de l'écran. 2 pistes latérales surround qui regroupent les ambiances et les effets. Et la particularité du son numérique, donc le 1 du point 1, c'est de réserver une piste entière aux fréquences extrêmement graves. Donc on appelle cette piste la piste LFE, Low Frequency Effects, donc pour les infrabasses. Avec ces 6 pistes séparées, ça va permettre déjà une très grande flexibilité de manipulation, donc de la part des techniciens sonores. Ça va permettre aussi une très grande puissance au niveau du son, la clarté donc sonore de certains sons aux deux extrémités du spectre, on l'a évoqué tout à l'heure avec les transformations de l'orchestre, un gain aussi au niveau des fréquences, et également un travail très très fin sur la spatialisation du son.
Ce que tu décris, c'est clairement un bouleversement total du rapport entre le compositeur et la musique au cinéma. Comment est-ce que John Williams, justement, s'est emparé de ces nouvelles possibilités technologiques et comment est-ce que ça a impacté son rapport à la composition ?
Alors Williams va être confronté à un problème majeur qui est lié directement à l'adoption par Lucas des technologies numériques. C'est qu'en fait, à partir du moment où le réalisateur va pouvoir accéder à n'importe quel endroit des pistes, eh bien il va changer en fait son montage image jusqu'à quasiment la veille de la sortie du film en salle. Donc Williams va être confronté à cette problématique qui est que Lucas envisage son film un peu comme un work in progress qui est jamais vraiment fixe, et donc quand il va composer sa partition, il va composer sa partition à partir d'un montage qui va sans cesse évoluer. Et donc le problème, c'est qu'il n'a pas du tout le temps ni la possibilité de composer de nouvelles musiques pour s'adapter à chaque fois aux changements incessants du montage d'image. Donc ça va l'amener tout simplement à déléguer un certain nombre de tâches à son monteur, Kenneth Swanberg, qu'on évoquait tout à l'heure. Notamment, il y a cette anecdote fameuse à propos de la séquence de la reine à la fin de l'attaque des clones sur la planète Geonosis. Et voici ce que relate John Williams. Il dit « Lorsqu'on m'a présenté l'attaque des clones, j'étais loin de m'attendre à ce qu'il y ait 40 minutes de bataille non-stop. » Et il dit, bah, en fait, techniquement, si j'avais dû composer vraiment une musique spécifiquement pour ces 40 minutes de scène de bataille, bah, ça m'aurait pris 2 mois, soit la totalité du temps que j'avais pour composer la partition en entier. Et donc il dit, l'attaque des clones devait survivre à Geonosis. Et comment il a fait? En fait, il a demandé à Kenneth Swanberg de faire un montage, une sorte de patchwork géant, à partir de morceaux de provenance très diverses, en fait, en puisant dans les épisodes précédents. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu accompagner cette séquence de Geonosis. Donc ça, c'est la première chose. Hein, le monteur musique va avoir une importance extrêmement importante à l'ère numérique, de fait de ces changements incessants liés à l'adoption des technologies.
D'autant plus que personne n'est capable de dire vraiment qu'il n'a pas composé la musique.
Alors c'est amusant que tu abordes cette question parce que justement certains fans, eux, ont fait la différence.
Ah, les fous.
Et les épisodes républicains ont été jugés très très sévèrement par toute une communauté de fans un petit peu intense qui ont jugé que finalement c'était même plus la peine d'engager John Williams parce qu'il suffisait de faire des grands patchworks, c'était pour avoir un résultat comme ça, qu'ils qualifient parfois de boucherie. Ils ont des termes comme suicide créatif aussi, donc quand même des thèmes extrêmement violents également à l'égard du travail de Swanberg. Et certains fans vont se mettre en tête de proposer sur la toile leur propre remontage de la musique des épisodes républicains en jugeant que bah voilà, la partition de Star Wars devait être comme ça, et donc pour eux, il y a une forme de déférence, de respect, très amplifié à l'égard de la partition de Williams, qui est considérée un peu comme une œuvre en tant que telle, autonome, et qui ne devrait être changée sous aucun prétexte. R2, what are you doing here? What are you doing? Oh, stop that! You're going to strain something! My leg! Now, where are you taking me? This is such a drag. I'm quite beside myself. Arthur, please be careful. You're sinking my circuits. But is my head on straight?
Qui est Walter Murch, Chloé?
Walter Murch est un sound designer et c'est lui qui a inventé cette étiquette de sound designer.
Alors c'est quoi le sound design? Explique-nous.
Alors il a inventé cette étiquette en 1979 pour le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola pour résoudre en fait une difficulté très concrète auquel il était confronté, à savoir que à ce moment-là dans le cinéma américain les métiers du son étaient extrêmement cloisonnés. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il endossait à la fois le rôle de créateur sonore, de mixeur, de monteur, de superviseur, et que finalement, il n'y avait pas de terme qui qualifiait ce qu'il faisait réellement sur les films. Et donc, il a inventé ce terme de sound designer pour mettre un mot sur son métier. Et donc, le sound designer, c'est vraiment cette sorte de super superviseur sonore, mais c'est aussi un grand créateur sonore, donc qui va être à la recherche de sons inventifs, de sons inouïs. Donc pour ça, ils vont sortir donc de la réutilisation de sons des sonothèques des studios et au contraire, ils vont aller enregistrer donc sur le terrain, dans des ranchs, sur des bases ferroviaires, sur des bases militaires, dans des tunnels, etc. Pour chez des éleveurs d'animaux aussi, pour avoir tout un réservoir de sons et pouvoir les combiner ensuite pour donner naissance à des objets sonores inventifs. L'autre dimension importante du sound design, c'est donc cette volonté qu'ils ont de créer une spatialisation sonore, de créer des environnements sonores distincts. Et par ailleurs, il y a dans cette idée de sound design une vision holistique du film dans son ensemble, c'est-à-dire donc de vraiment pouvoir créer des variations sur un même son en ayant une vue globale de la bande-son qui va être considérée comme un tout cohérent en lui-même. Et donc une même personne va, donc le sound designer va pouvoir avoir cette vue globale et va pouvoir voir ce qui se passe donc du début à la fin du film.
Et c'est donc maintenant que tu nous as parlé un peu de Walter Murch que la question de Star Wars se pose, parce que Star Wars, certes, c'est la musique, c'est la fanfare de John Williams, c'est même tous les éléments dont on vient de parler, mais c'est aussi des effets sonores très célèbres. Comment est-ce que tu as abordé l'analyse de ces effets sonores ?
Alors, je me suis basée déjà sur un certain nombre d'entretiens qu'a pu donner Ben Burt, donc qui a été le sound designer de Star Wars, crédité en tant que tel à partir de l'Empire Contre-Attaque en 1980. En fait, il a été crédité de sound designer sur l'épisode 4 a posteriori, puisque en 77, le terme de sound designer n'existait pas, évidemment. Donc, je me suis basée vraiment sur les entretiens qu'il avait pu donner, sur les commentaires audio aussi, des supports DVD et Blu-ray qui sont très très précieux. Et puis sur des analyses d'intensité du signal, je me suis servi de certains logiciels qui permettent de produire donc des représentations graphiques, des spectrogrammes qui m'ont permis de pousser un peu plus loin, d'avoir un support visuel sur lequel m'appuyer pour analyser ces objets sonores.
Alors tout ça, en fin de compte, ça fait beaucoup de monde sur une même bande son. Si je résume, on a un compositeur, John Williams, un music editor, Weinberg, un sound designer, Ben Burt. Et tout ça, tous ces gens vont faire l'identité sonore de Star Wars. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une rivalité entre tous ces différents acteurs, tous ces différents créateurs de la bande-son ?
Effectivement, on parlait de la réception des épisodes républicains tout à l'heure, et l'une des grandes idées récurrentes dans les publications, que ce soit les publications académiques ou voilà, sur les forums, c'est aussi l'idée qu'il y a une guerre des sons dans Star Wars, que finalement la partition de Williams doit sans cesse lutter contre les effets sonores, et c'est vrai que les effets sonores, avec l'adoption des technologies numériques, sont à la fois plus nombreux et plus forts. Pour autant, donc c'est l'objet de la troisième partie de mon livre, c'est d'aller au-delà de ce présupposé d'une guerre des sons, parce qu'on se rend compte que, d'un côté comme de l'autre, il y a eu une pensée vraiment très méticuleuse de l'articulation entre les différents composants de la bande sonore. Ben Burt, c'est un musicien à la base, il a une formation de percussionniste, et à plusieurs reprises, donc pour différentes séquences, en fait, il a été amené parfois à modifier ses effets sonores lorsqu'il se rendait compte que ceci entrait en compétition avec la partition de John Williams, donc il a modifié les fréquences, de sorte qu'il y ait voilà, plusieurs plans sonores distincts que l'oreille pouvait vraiment distinguer, et non pas une sorte de magma informe où de toute façon cette compétition serait complètement stérile pour l'un comme pour l'autre. Donc du côté de Ben Burt, il y a cette attention très spécifique à la musique. Et du côté de Williams, bien sûr, Williams a vraiment un métier très important dans la manière dont il va concevoir sa musique par rapport au dialogue. Déjà, il va vraiment faire attention au timbre des voix, des acteurs, tout simplement au spectre de fréquence, et il va concevoir sa musique en fonction de ses registres vocaux.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis ?
Je vais même t'en donner deux, Jérémy. Pour commencer, à la fin de l'attaque des clones, Amidala et Anakin tentent de venir à la rescousse d'Obi-Wan et donc se retrouvent sur la planète Geonosis dans une usine de fabrication de droïdes. Par un concours de différentes circonstances, Anakin se retrouve le bras soudé sur la chaîne de montage. et il perd son sabre laser, et donc il va devoir se déplacer très rapidement, donc avec son bras bloqué, pour ne pas se faire littéralement aplatir par les machines. Et à ce moment-là, on a vraiment un jeu rythmique et timbral entre le son des machines soudeuses et les interventions accentuées de l'orchestre. Un autre exemple très intéressant, dans La Revanche des Sith, au moment où Anakin renaît en quelque sorte en Dark Vador, donc au moment où on l'enferme dans cette armure, ce dispositif respiratoire, l'orchestre va se faire de moins en moins dense, jusqu'à laisser place uniquement à une ligne de violoncelle et contrebasse qui vont énoncer le début du thème de la marche impériale qui est associé entre autres à Dark Vador. Et donc dans l'extrême grave, au moment où le casque se referme, on entend ce thème donc mythique associé à Dark Vador. Et puis sur la partition de son manuscrit que j'ai pu consulter, Williams juste après ça va créer un grand décrescendo et va concevoir plusieurs mesures de silence, et au-dessus de ce décrescendo et de mesures de silence, il note le casque se referme et bruit de respiration. Et effectivement ici le son de respiration de Dark Vador, c'est-à-dire la première fois qu'on entend ce son de respiration lui aussi très fameux, eh bien, ça se fait dans un silence total qui permet de jouer un rôle d'écrin, en fait, de mettre en valeur ce bruitage. Donc, il est véritablement pensé, en fait, ce silence musical est pensé pour tendre l'écoute vers le sonore, vers ce son qui va s'échapper du casque de Dark Vador. Donc, en quelque sorte, Anakin renaît en Dark Vador par le son.
Cet épisode de Comme des lecteurs, en collaboration avec Le Son du Ciné, est terminé pour aujourd'hui. Par contre, on a encore énormément de choses à se dire sur ton livre, Chloé, et sur la musique de Star Wars. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci, mes padawans, Chloé, Jason, et à la prochaine.